Il y a une
de
blessure
substance.
à la
Kératite.
cornée, donc prions pour.
Kératite. Et ça fait mal.
Je sais, j'en ai eu. Je
donc,
sais.
On peut prier pour ça et peut-être que s'il y a un ou deux sujets. Est-ce que vous avez un sujet important qu'on pourrait remettre ça au Seigneur aussi? Bon, ben c'est parfait. On peut aussi peut-être remettre cette soirée, que le Seigneur conduise ce moment d'étude de la parole de Dieu. Donc, on va prier. Peut-être, Garcia, tu veux prier pour Maggie et pour que le Seigneur nous conduise dans cette étude.
Seigneur notre Dieu, je te loue, je te remercie pour ta bonté, ta bienveillance. Comment tu nous as réunis tous ici ensemble autour de ta parole. On est bien petits, de ta parole. Et on a vraiment besoin de ton Saint-Esprit pour nous conduire, nous aider à la comprendre, à la saisir. Je te prie de bénir vraiment Georges qui va nous conduire là-dessus. Ouais. Je te prie aussi de bénir Maggie avec cette maladie. Seigneur mon Dieu, je te prie que vraiment tu la fortifies, que tu conduises aussi les médecins qui l'accompagnent, afin qu'en tout, vraiment tu lui donnes du repos malgré tout ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Bon, alors nous allons continuer notre étude. Donc c'est toujours sur le thème du salut. Et mardi dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait parlé aussi de la mort de Jésus-Christ, que la mort de Jésus-Christ était importante justement pour le salut de l'humanité, parce que Dieu avait envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit, eh bien, à la vie éternelle. Et nous avions vu beaucoup de passages qui nous parlaient de la mort de Jésus, que c'était bien annoncé bien avant, que c'était pas un accident, la mort de Jésus, mais que c'était bien annoncé. On avait pris pas mal de passages, et même dans Ésaïe 53, on avait dit que la mort de Jésus nous réconciliait avec Dieu le Père, et donc on avait vu en gros tout ce qui concernait un peu, enfin tout non, mais enfin, une bonne partie qui concernait la mort de Jésus. Et aujourd'hui le thème, c'est aussi qui est toujours, selon le salut, nous allons parler de la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus, elle est aussi importante que sa mort, parce qu'on sait qu'à la mort, Jésus nous a pardonné, et à la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, ça prouve vraiment que nous avons la vie, et que comme Jésus l'a ressuscité, eh bien, nous aussi, nous ressusciterons, et on va lire plusieurs passages dans la Bible, ce qui concerne la résurrection de Jésus, et en même temps, on peut toujours faire un parallèle avec notre propre résurrection que le Seigneur a fait et qui nous a donné aussi par sa résurrection. Donc je vais vous distribuer, c'est un plan de ce que nous allons voir, et nous allons voir plusieurs points sur la résurrection. Donc je ne sais pas s'il y en aura assez. Il y a quatre passés là aussi. S'il n'y a pas assez, peut-être si je veux faire une feuille par couple. Je ne sais pas s'il y en a assez. Alors, bien sûr, nous allons voir pas mal de passages et de la parole, parce que la parole de Dieu. Parfois, il vaut mieux se taire et écouter ce que la Bible nous dit. Hein, la parole de Dieu est la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il est important toujours de nous baser sur ce que nous dit sa parole. Alors, tout le monde a des feuilles ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si Jésus serait resté mort, eh bien, où serait la victoire? Alors je vous propose de lire un premier passage, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15, que nous allons lire, 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54, en principe c'est marqué sur les feuilles, hein. Ça c'est plus vite trouvé. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55. Donc on fait comme d'habitude, et celui qui le trouve, eh bien, qui le lise. 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Voilà, hein. La mort a été engloutie, et par cela nous avons la victoire. La victoire, bien sûr, en Jésus-Christ. Autant la mort de Jésus a été importante pour le péché, eh bien, autant sa résurrection, elle est aussi importante pour plusieurs raisons. Et nous allons voir ce soir pas mal de raisons que cette résurrection, elle est importante pour chacun de nous. Et je vous propose un autre passage dans 1 Corinthiens 15, au verset 22, dans le même chapitre, le verset 22 cette fois-ci.
Oui, mais en plus le 22, c'est ça?
Oui. Oui.
Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
D'accord. Et j'avais marqué sur les feuilles parce que je n'ai pas gardé la feuille.
De 12 à 19.
12 à 19 également.
Oui, mais on va le voir. On va le voir. Bon, c'était surtout ce passage-là. Hein. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà ce que la résurrection de Jésus, nous pouvons dire qu'aussi nous, on revivra aussi dans la présence du Seigneur. Alors c'est vrai que on peut voir qu'il y a des personnes qui ont admis la mort de Jésus, mais qui nient la résurrection. Alors, la résurrection de Jésus, c'est la doctrine fondamentale du christianisme. C'est vrai qu'il est évident que la résurrection physique est extrêmement importante, bien sûr, pour notre foi. Et c'est là qu'on va lire 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 12 à 19. Ce chapitre 15 est important. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout le lire, mais à la maison, si vous ne savez pas à quelle lecture prendre, eh bien, vous pouvez prendre ce chapitre. Alors, chapitre 15, versets 12 à 19.
Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ se sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Oui, c'est un passage quand même qui est important, hein, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, la prédication de l'apôtre Paul, elle serait vaine. Au verset 14, on l'a lu. On pourrait dire aussi que les apôtres ne sont pas des témoins, n'ont pas été ce sont des faux témoins. Au verset 15. Et le verset 17, hein, on est encore dans nos péchés perdus. Et s'il n'y a pas la résurrection de Jésus, eh bien, c'est vrai que nous sommes les plus malheureux. Parce que si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi, elle serait vaine, parce que nous avons la foi, nous avons cette espérance que comme lui, il est ressuscité, eh bien que nous ressusciterons aussi au dernier jour. Donc c'est quand même un passage important que nous lisons là. Et dans le livre des Actes, on voit que les apôtres ont insisté sur la résurrection de Jésus et ils en sont des témoins. Alors je vous propose de lire dans Actes au chapitre 10, les versets 39 à 41. Actes chapitre 10, 39 à 41.
Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons...
Pardon, vas-y.
Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Voilà. Donc là, on voit bien que nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. Ils ont tué l'homme à la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Donc vraiment, c'est un encouragement de savoir que Christ est ressuscité. Et nous pouvons lire aussi le Acte chapitre 2, le verset 24. On va lire juste le verset 24 parce qu'on reviendra sur ce passage. Acte 2, verset 24.
Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif.
Voilà, il était impossible parce que Jésus-Christ est divin. Et on peut lire le verset 31 aussi, de toujours ce même chapitre.
C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition.
Voilà, hein, donc la mort ne pouvait pas le retenir. Et on a lu aussi que Jésus s'est présenté devant eux. On peut lire Actes chapitre 4, verset 10.
Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.
Voilà, donc Jésus est bien ressuscité et il s'est présenté aussi devant certaines personnes que Dieu lui-même avait choisies, et on va le voir un peu par la suite. Hein. Dans les épîtres de Paul, on peut remarquer les mêmes choses, que la résurrection de Jésus, elle nous est imputée. Et je vous invite à lire le Romains au chapitre 4, le verset 24. Romains 4, verset 24.
Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur.
Voilà. Et dans ma version, moi, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Voilà, nous pouvons dire que la résurrection de Jésus, eh bien, elle est imputée aussi dans nos vies. Romains chapitre 8, verset 11.
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Voilà, passage aussi qui est important. Hein. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En vous, quel encouragement. Mais je ne sais pas si vraiment on prend conscience de savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. C'est vrai que parfois nous vivons des choses difficiles dans notre vie, mais quand on réalise que cette vie, eh bien, elle est à nous aussi, et que ça sera pour l'éternité, et on sait qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, ça sera extraordinaire, et je ne sais pas pour vous, mais parfois, moi, ça m'encourage, ça m'aide, et de me dire, ben, Seigneur, par ta grâce, voilà, je vais vivre éternellement parce que tu es venu mourir et tu es ressuscité, et quelle joie. Et on devrait...
danser de joie.
Danser de joie, on devrait frapper des mains, on devrait vraiment se réjouir de cela, de savoir, d'avoir la vie. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, c'est, ce qui nous fait peur, c'est la mort. Hein? Et donc on pense toujours à cela, et c'est pas facile, mais merci Seigneur, on peut être que reconnaissant de la vie qui nous donne, hein? Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de passages dans la Bible qui qui nous dit que la résurrection de Jésus-Christ nous est imputée. Donc j'avais noté plusieurs passages. On peut lire peut-être dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 21.
Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ.
Voilà. Et si nous sommes sauvés, c'est parce que c'est justement par Jésus-Christ seul, hein, parce qu'il est ressuscité, et nous ressusciterons aussi encore. Il est donc clair que la résurrection est une partie essentielle de l'Évangile. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentif au message que nous avons reçu dimanche. Hein. J'ai trouvé ce message qui nous rappelait aussi cette résurrection que nous avons en Jésus-Christ. Et il était question de Lazare avec l'homme riche. On voit l'homme riche qui vit dans ses tourments. C'était des choses pas faciles. Et que il avertit même Abraham d'aller pouvoir avertir ses frères aussi pour pas qu'ils vivent aussi dans ce que lui vivait. Et combien nous avons besoin, nous aussi, d'être des témoins pour ceux qui se perdent, d'avoir cet amour des âmes perdues, parce que c'est vrai que la mort étant là, eh bien, il faut savoir, comme il nous l'avait été rappelé, que ce n'est pas quelque chose qui est fini, la mort. Parce que souvent, on dit, oh, ben, il a dit d'ailleurs que bon, c'est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Non, c'est vivre dans les tourments. Alors que par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Donc, je crois que nous devons vraiment avoir cet amour pour les âmes perdues, de rappeler que Jésus-Christ, il est ressuscité et que nous avons la victoire en lui, et que ça soit une arme pour nous de pouvoir justement être des témoins et être ce sel de la terre que le Seigneur nous demande d'être. Et je crois que là aussi, c'est un encouragement pour nous vraiment à vivre de Jésus-Christ. Et ce n'est pas qu'il faut, des fois, de se forcer, on ne peut pas. Je crois qu'il faut être tel que nous sommes, avec nos lacunes, mais de vivre déjà cette résurrection à nous. Et à partir de là, je crois que c'est là où on peut être vrai et sincère, quand nous le vivons nous-mêmes. Alors, on va continuer. La résurrection a un rôle important dans l'application du salut. Alors, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 20 à 22, qu'on peut lire, Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 22.
Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Voilà. Dieu a ressuscité Jésus et l'a donné comme le chef suprême à l'Église, et nous savons que l'Église, c'est le corps de Christ, et c'est Jésus-Christ qui en est la tête. Il est le premier, il est le dernier, et samedi, nous avons pu voir avec le groupe d'hommes qu'il était Jésus-Christ et l'alpha et l'oméga. Donc vraiment, il est au-dessus de toute chose, toute gloire lui a été donnée. Il était donc nécessaire que Jésus ressuscite, justement avant de pouvoir baptiser le croyant du Saint-Esprit. Et je vous invite à lire dans Jean, au chapitre 1, verset 33. Jean, chapitre 1, verset 33.
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu.
Oui. Et on peut peut-être lire aussi Jean chapitre 14, versets 16 à 19. Jean 14.
Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous.
Voilà. Christ sera en nous. Jésus devait ressusciter et devenir prince et sauveur, et pour accorder justement la repentance, et nous en avions parlé un peu de la repentance mardi dernier, et nous pouvons lire Actes chapitre 5, verset 31. Alors c'est vrai qu'il y a, on lit beaucoup de passages, hein, mais comme j'ai dit au début, je crois que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Hein. Donc Actes chapitre 5, verset 31.
Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés.
Voilà, ce passage aussi qui est magnifique, hein, que il est prince et sauveur, et justement pour nous apporter nous accorder la repentance et pour avoir le pardon de nos péchés. Et j'aimerais aussi, parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, alors je vous demande beaucoup d'efforts de lire, hein, mais dans Romains au chapitre 8, chapitre 5, pardon, et versets 8 à 10. Passage que je trouve ce passage magnifique.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Voilà. Et Paul, ici, bien, il résume bien la question quand il dit que sa mort nous a réconciliés à Dieu et que nous sommes sauvés par sa vie. Nul ne va au Père que par Jésus-Christ. La résurrection est essentielle pour le salut qui nous est offert, bien sûr, par sa mort. Sa résurrection confirme donc notre résurrection à tous ceux qui, bien sûr, croient. Et c'est vrai que je pense, enfin, je ne sais pas dans le mot grec, mais peut-être que le mot croire, ça doit avoir une autre signification, parce que je me dis, bon, ben, beaucoup de personnes, ils croient, moi, quand je discute avec des personnes, on me dit, ouais, mais moi, je crois, ouais, mais je ne pratique pas. Mais donc, je pense que ce mot croire, il n'est pas assez profond, alors je n'ai pas étudié le... Oui, c'est la foi, mais la foi vraiment...
C'est obéir.
Voilà.
L'obéissance, ça va dire le même mot pour obéir, hein, c'est pisteo.
Voilà, donc c'est pas simplement dire, oui, bon, mais moi je peux croire que demain il va pleuvoir, mais sans être sûr. Mais croire au Seigneur Jésus, c'est pas la même signification. C'est de vivre de lui en esprit, hein, et vérité. Ça, c'est important à le savoir dans nos vies. Alors aussi, il y a la résurrection est importante aussi en tant que preuve de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est vrai, est souvent exprimée dans l'Ancien Testament, et nous en avons parlé mardi dernier, lorsque, vous savez, Israël est sorti d'Égypte, hein, on sait qu'ils ont traversé la mer à pied sec. La fête annuelle de la Pâque servait aussi à rappeler sa main puissante du Seigneur. Hein. Rappelez-vous le sang de l'agneau sur les linteaux. Mais dans le Nouveau Testament, la puissance de Dieu eh bien, elle est dans la résurrection de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu qui nous accorde aussi. Dans Actes chapitre 2, verset 24, et on lira, voici jusqu'au verset 28. On va reprendre ce passage qu'on a pris tout à l'heure. Actes chapitre 2, et verset 24 à 28.
Et Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est, est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.
C'est un passage extraordinaire, hein. La puissance de Dieu est vraiment aussi à notre disposition, à tous ceux qui croient, hein, bien sûr, en la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Mais c'est vrai que le diable, il est là. Il est toujours en train de nous détourner et de nous rappeler ce que le Seigneur il est. Hein. Et donc nous devons être vigilants. Et c'est vrai qu'il y a des théories où il se dit que Jésus n'était pas mort quand on l'a mis au tombeau. Ça c'est une nouvelle théorie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais il y en a qui disent oui, mais Jésus on l'a mis, il n'était pas mort, qu'il était dans un état inconscient, un peu comme un mort vivant.
Cataleptique.
Ouais. Et y en a même qui disent comme ça que il s'est réveillé dans le tombeau parce qu'on a embaumé son corps et que ces huiles et tout ça, bien, ça l'a permis de se réveiller. Ce sont des théories qui sont complètement fausses parce que la parole de Dieu, elle est claire, Jésus-Christ était bien mort à la croix. Hein. Donc, n'oublions pas qu'à la croix, justement, il est dit que quand on lui a envoyé la lance, que le sang et l'eau a coulé. Et j'ai téléphoné à un docteur et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais docteur, quand dans un accident ou quoi, quand il y a le sang et l'eau qui est mélangé. Et il m'a répondu, il m'a dit, oh là, à 90%, hein, c'est pratiquement une mort assurée. Hein. Et il y a aussi ce passage qui nous est dit dans la Bible que quand Jésus il était à la croix, vous rappelez qu'ils sont venus pour briser les jambes, parce que en brisant les jambes, si vous voulez, bon, la personne devenait faible et la mort est arrivée beaucoup plus vite. Et quand ils sont arrivés à Jésus, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu, ils ont vu que Jésus-Christ était mort. Donc c'est là aussi, ça prouve bien que Jésus-Christ, il était bien mort à la croix. Et toutes les théories que nous pouvons entendre sur la mort, la résurrection de Jésus, qui sont fausses, parce que c'est que des mensonges qu'on essaye de voir, parce que le diable, bien sûr, essaye de toujours par essayer de nous détourner de ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Et notre base, nous, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Hein. Et je crois que nous avons besoin de nous baser toujours sur ce que nous dit la Bible. Oui, Jésus est bien mort. Regardez dans Jean au chapitre 19, verset 30. Jean, chapitre 19, verset 30.
Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit.
Tu peux lire le verset 33 et 34 aussi. Oui.
Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.
Voilà. Cela confirme que l'Écriture, que déjà ça avait été annoncé qu'aucun os ne serait brisé et encore, voilà, la parole de Dieu qui dit la vérité, hein, aucun os sera brisé, et c'est vrai que ces os n'ont pas été brisés à ce moment-là. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 18, on peut le lire, Apocalypse, chapitre 1, verset 18, qui nous confirme la mort du Dieu de Jésus.
J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Voilà, il est bien dit, j'étais mort. Hein? C'est Jésus. Hein? Jésus confirme qu'il a été bien mort et que maintenant il est vivant pour l'éternité. Alors, je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, et je m'aperçois, plus on avance dans le temps, plus on essaye de... Dernièrement, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, j'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé un manuscrit, c'est l'évangile de Judas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Et ce qu'on peut s'apercevoir, que voilà, on essaye toujours de trouver quelque chose qui va contre ce que la parole de Dieu, elle annonce. Et rappelez-vous, dans l'Apocalypse, il nous est dit que celui qui rajoutera quelque chose, qui enlèvera quelque chose... Eh bien, il ne sera pas en paix. Je crois que c'est dans les derniers chapitres. Hein. Je crois dans le chapitre 22, à la fin d'ailleurs, où il dit... je le déclare, au chapitre 22, verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits de ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose... des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Hein? Je crois qu'il faut que nous soyons attentifs et faire attention à ce que nous on peut entendre ou lire, parce que parfois il peut très bien avoir aussi des livres soi-disant chrétiens, mais qui ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. Hein? Je crois que nous devons rester vraiment conformes à ce que nous dit la Bible. Si la Bible a dit que c'est blanc, ben n'allons pas dire que c'est noir. Restons fidèles à la parole de Dieu. Hein. Est-ce que peut-être quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit ou...
C'est vrai, c'est vrai. Juste pour dire ce que je dis, hein, que nous, même en tant que chrétiens, même chrétiens convaincus depuis des années, il faut faire attention que notre base doit être biblique. Si quelque chose que je fais n'est pas biblique, Bible en main, si on, je ne suis pas convaincu de la chose, je dois rejeter ça. Et ça, ça doit être systématique dans nos vies. Parce que souvent, on se laisse aller vers des choses, comment dire, qui flattent un peu notre ego, qui flattent un peu notre orgueil, sans qu'on s'en aperçoive forcément. Ouais. Mais il faut avoir cette attitude vraiment carrée. Nous devons rester bibliques. Ouais. Si ce n'est pas biblique, de côté.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Et merci de le relever, de le souligner. C'est un peu ce que disait Sylvia. Hein. La foi, croire, c'est l'obéissance, à l'obéissance à la parole de Dieu. Hein. Alors oui, attention, parce qu'il peut y avoir des livres soi-disant bien, mais que nous pouvons nous laisser séduire. Et nous devons être vigilants.
Et comme tu dis souvent, la parole, toute la parole,
et rien que la parole. Exactement. Ça, c'est notre base. C'est l'évangile de Jésus-Christ et vraiment, nous devons nous appuyer ta parole et la vérité.
Si je peux dire, effectivement, on se base toujours sur la parole. Et on a aussi des témoignages extérieur confirme déjà l'existence de Jésus. On a des écrits comme Flavius Josèphe, ou etc., d'autres, ou même des preuves scientifiques qui confirment. Donc, ça va dans le sens de la foi aussi. Il y a cet aspect aussi, bien entendu, ça, qui ne va pas à l'encontre de ce que la parole dit.
Oui, tout n'est pas mauvais, c'est clair. Oui. Oui, il y a des bonnes choses. Il y a des écrits, moi je vous avoue que je lis certains livres, et qui est toujours, parce que certains livres qui nous rapportent toujours à la parole de Dieu, et que je trouve très très intéressants, et qui m'aident aussi à à comprendre des choses que je n'arrive pas non plus à comprendre, mais qui est toujours en rapport avec la parole de Dieu.
Mais le seul livre où il n'y a aucune erreur,
c'est la Bible.
C'est la Bible. Ouais. Tous les autres livres contiennent une partie de la vérité, mmh. et la Bible est
la Bible. Exact.
Mmh. C'est là la grande différence.
Ouais, c'est vrai. Alors, nous sommes toujours dans la résurrection. Hein. Alors, c'est une résurrection corporelle. Hein. Il y a des personnes aussi qui prétendent croire à la résurrection de Jésus, mais qui refusent cependant de croire que c'est une résurrection corporelle. Ils expliquent que les apparitions de Jésus, puisqu'il est apparu, on a lu, qu'il est apparu à plusieurs, sont des apparitions d'un esprit ou alors que ce sont des hallucinations. Plusieurs points prouvent que Jésus est bien ressuscité corporellement. On va lire dans Luc au chapitre 24, le verset 36, de la résurrection vraiment de Jésus corporel. Hein. Luc chapitre 24, le verset 36.
Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ».
Voilà, hein, il se présente devant les disciples. Hein. Et un esprit n'a ni chair ni os. Et vous vous rappelez aussi quand Jésus est ressuscité, c'est dans Matthieu au chapitre 28, quand Marie de Magdala et l'autre Marie, ils voient Jésus qui est ressuscité, eh bien, ils vont pour l'adorer et embrasser les pieds de Jésus. Et nous pouvons lire aussi dans Luc au chapitre 24. Pardon ?
36 à 43. C'est ce, que, dans ce dont je viens de parler.
Ah oui, pardon. 36 à 43. Ah oui, pardon. Alors, il n'y a qu'à le lire en entier. Oui, je vois que tu as plus de voix.
Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux.
Oui, merci de l'avoir confirmé, de lire tout le passage, c'est beaucoup plus clair. Merci. Non, mais je voulais voir si elle suivait. Merci. Et nous pouvons voir aussi que Jésus mangeait en présence de ses disciples, et comme on a lu, eh bien, un esprit, puisque certains prétendent que c'est une hallucination ou un esprit, eh bien, un esprit ne mange pas, c'est clair. La résurrection de Jésus visuelle a été aussi accordée à des personnes, bien sûr, aux disciples, à Marie, on l'a vu, hein, et il nous est dit aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 15, qu'on ne va pas lire au verset 6, qu'il s'est présenté aussi à 500 personnes. Donc, ce n'était pas des hallucinations, comme on peut le prétendre. On ne peut donc pas avoir recours à des visions personnelles ou à des hallucinations collectives. Hein. Jésus est bien ressuscité corporellement.
Amen.
Et puis, si les apparitions de Jésus avaient été le résultat de l'imagination de ces hommes et de ces femmes, eh bien, cela se serait arrêté 40 jours où il est resté après sa mort sur la terre. Nous pouvons voir dans Matthieu au chapitre 28, versets 11 à 15, on va le lire, on va voir la malhonnêteté vraiment de l'être humain. Lisons Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15.
Pendant Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour.
Ouais. C'est quand même extraordinaire que même à cette époque, on essayait déjà de...
D'étouffer l'affaire.
Exactement. C'est incroyable. La malhonnêteté des principaux, des sacrificateurs juifs, vous vous rendez compte, hein? Ils ont versé une forte somme d'argent pour qu'ils disent que les disciples avaient envolé le corps de Jésus. Quel mensonge! Et aujourd'hui, il y a toujours des mensonges qui essayent toujours de contredire ce que la parole de Dieu vous dit, que ce soit sur la mort de Jésus, que ce soit sur la résurrection, que ce soit sur son retour. Eh bien, il y aura toujours des mensonges qu'on essaiera de pouvoir détourner ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a dit. C'est quand même extraordinaire, hein? Aujourd'hui, tout est bon pour faire douter la parole. Les disciples, après la crucifixion, alors imaginez, quand ils ont crucifié Jésus, dans quel état ils étaient, hein? C'est pas eux qui ont été volés le corps. Ils étaient complètement perdus. On lit que même qu'ils ont été se barricader, qu'ils ont été s'enfermer. Alors on voit mal, hein, que ce soit les disciples qui ont été enlever le corps. Ils étaient complètement... Le maître n'était plus là. Hein. Que de mensonges de dire, ouais, mais c'est les disciples qui ont enlevé le corps. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que c'est vrai qu'à ce moment-là, les disciples étaient complètement perdus, déboussolés, on peut dire. Mais après avoir vu Jésus, quand ils l'ont vu, ben, nous voyons les disciples remplis d'enthousiasme et prêts à affronter n'importe qui. Le livre des Actes souligne l'insistance avec laquelle les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Et nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Hein? Et est-ce que nous sommes cloîtrés, est-ce qu'on va s'enfermer? Ou est-ce que nous avons le même enthousiasme que les apôtres, après avoir vu Jésus ressuscité, l'enthousiasme qu'ils avaient? Des fois, en préparant ça, je me disais, ben ouais, mais toi aussi, des fois, tu t'enfermes, tu n'oses pas, tu es avec certains amis, oula, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que je vais témoigner, hein? Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et ça devrait nous encourager de dire, ben ouais, je sais qu'il est ressuscité, qu'il est auprès du Père maintenant, qu'il nous a donné le Saint-Esprit. De cet esprit qui est là pour nous conduire, pour nous corriger, pour nous instruire. Il est notre consolateur. Alors, avançons. Je me rappelle, souvent vous allez dire que je prends des cantiques, mais je me rappelle mon oncle quand il chantait « Debout, sainte cohorte, allez, vaillant soldat !» Je ne sais pas si vous le connaissez, ce cantique,
oui, oui.
Merveilleux
oui,
cantique. Oui. Allez, avançons, sans frayeur. Eh bien, avançons sans prière. Gloire à Dieu. Oui, alors c'est vrai que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection. On peut lire Actes chapitre 2, verset 32, comme je crois qu'on a lu.
Oui.
Alors, Actes chapitre 3, verset 15.
On l'a lu.
On l'a lu. Donc, je me répète. J'ai dû le marquer deux fois. Excusez-moi. Enfin, avançons sans prière. Debout cette cohorte. Hein? Alors, nous allons continuer. Ah oui, oula.
Hein?
Quels sont les résultats de la résurrection de Jésus? Alors, nous avons dans Romains au chapitre 1, verset 4, Paul dit que le Fils de Dieu a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Eh bien, Dieu a accepté le sacrifice de Jésus et le résultat de la résurrection de Jésus est pour notre justification. On va lire Romains chapitre 4, verset 25.
Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.
Ouais. Alors, juste quelques mots sur ce passage de Romains 4, 25. Jésus est ressuscité pour notre justification. Alors, c'est vrai que mardi dernier, pourquoi je dis mardi, moi ? Oui, mais c'était mardi, oui. Mardi dernier, on a vu que Jésus est mort, hein, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour nos péchés, pour nos offenses. D'accord ? Et il est dit ici que Jésus est ressuscité pour notre justification. Eh bien, cela veut dire que Dieu fut totalement satisfait de l'œuvre de Jésus à la croix par lequel nous sommes justifiés. Je crois que même mardi dernier, on avait dit ce cantique.
C'est le sang.
Ouais, c'est le sang de Jésus suffit pour Dieu. Si le sang de Jésus suffit pour Dieu, eh bien, il suffit pour moi. Parce que à travers le sang de Jésus, eh bien, Dieu a prouvé ce que Jésus a fait, eh bien cela nous justifie. Il est ressuscité. Dans la résurrection de Jésus, le résultat atteste notre justification. Si Jésus serait resté dans le tombeau, eh bien il n'y aurait pas eu de justification. Sa résurrection témoigne le paiement de la dette qui a satisfait complètement Dieu. Notre foi nous permet d'obtenir la justification par la foi. Voilà, c'est juste quelques mots sur la justification. J'avance parce que c'est l'heure tourne. Hein. Jésus est notre souverain sacrificateur. Alors, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus est devenu l'intercesseur et il est le sauveur. Romains chapitre 5, verset 9. On peut le lire.
Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu.
Amen.
Amen. Amen.
On peut lire aussi Romains 8, verset 34.
Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh.
Là aussi, Jésus intercède pour nous et personne ne peut nous condamner. Le sang de Jésus-Christ nous suffit. Alors, la conséquence de sa résurrection nous donne le salut. La résurrection de Jésus, eh bien, elle est la base, l'assurance, justement, du croyant. C'est la base. Nous avons toute la puissance à notre disposition pour vivre et pour servir, selon sa propre force et les armes que Dieu nous donne. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20. Éphésiens 1.
Je vous demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous, qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux.
Voilà. Christ est dans les cieux. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, eh bien, il peut pourvoir aussi à tous nos besoins. Le salut vient de Dieu. C'est par sa grâce, et par sa grâce seule. Mais c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Il nous a donné le moyen, justement, de pouvoir nous repentir. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il n'a pas dit, bon, maintenant je suis mort, j'ai ressuscité, je m'en vais dans le ciel, débrouillez-vous. Non, non. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous convaincra, qui nous instruira et qui est notre consolateur. La conséquence de sa résurrection nous garantit que nos corps ressusciteront d'entre les morts. On peut lire Jean chapitre 6, verset 40. Et peut-être quelqu'un peut trouver aussi Romains 8, verset 11. On pourra lire ces deux. Alors Jean d'abord, Jean 6, 40.
En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour.
Voilà, la volonté du Père. Mm-hmm. Et Romains 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts prendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Voilà. Merci Seigneur. Alors, maintenant, parlons un peu de l'ascension. Alors, c'est vrai que après la résurrection, Jésus, hein, il y a eu l'ascension 40 jours après. Hein. L'ascension, c'est le retour de Jésus dans le ciel, puisque nous savons qu'il est descendu, qu'il avait quitté la gloire qu'il avait dans le ciel. Alors, il y a un passage qui le dit, on ne va pas le lire, ou encore dans Jean chapitre 20, verset 17, on peut le lire peut-être Jean 20, 17.
Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
C'est pas des merveilleuses paroles, ça. Je monte vers mon Père et vers votre Père. Alors, c'est vrai que, nous parlons du ciel. Hein. La Bible ne dit pas où se situe le ciel. Bien que, on sait très bien que le ciel, c'est un lieu céleste. Le ciel est l'endroit où Dieu habite. Parce qu'on connaît tout ce passage que Dieu n'habite pas dans une maison faite par des mains d'hommes. Donc, le ciel, c'est la présence de Dieu. C'est là où il habite. Jésus a dit dans Jean, au chapitre 14, verset 2, « Je vais vous préparer une place, eh bien, notre place sera dans la présence de Dieu. » Là aussi, je ne sais pas, enfin, j'ai du mal à imaginer... ma place auprès de Dieu dans la plénitude des merveilles déjà rien que de sa présence ça sera quelque chose d'extraordinaire hein. Alors tout comme Jésus est ressuscité, eh bien tous ceux qui auront cru, croient en esprit et vérité hein, eh bien ressusciteront et iront justement dans ces lieux célestes, dans la présence de Dieu, là où il règne et qui règnera pour l'éternité. Et nous régnerons pour l'éternité. Alors c'est vrai, ça c'était l'ascension. Alors, ensuite, il y aura aussi l'exaltation. Alors quand Jésus est remonté dans les lieux célestes, eh bien, l'Écriture parle de l'exaltation de Jésus-Christ. Il est couronné de gloire. Alors on va lire Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux chapitre 2. Verset 9.
Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous.
Il a reçu aussi un nom qui est au-dessus de tout nom. Et son nom est fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Bon, on ne va pas le lire. Et Apocalypse 19, verset 13. Vous pouvez vous le noter ou garder les feuilles, comme ça vous pourrez le lire, parce que je vois l'heure qui tourne. Et donc je voudrais rester dans le temps. Son nom est Parole de Dieu. Parole de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Matthieu 28, verset 18. Il est assis à la droite de Dieu pour toujours. Et nous serons, nous aussi, dans ces lieux célestes. On va lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Ça, c'est l'exaltation de Jésus. Hein. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22.
Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis.
Voilà. Tout lui a été soumis. Et pour couronner le tout, voilà ce qu'il a fait pour nous. On va lire dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Tout ça, tout ce qu'il a fait pour nous.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
On peut le relire.
Je lis le verset d'avant, peut-être.
Oui.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Ouais, voilà, ça c'est le résultat de sa mort et de sa résurrection, de son ascension et de son exaltation. Voilà le résultat de celui qui croit. Alors, pour conclure, on a 2 minutes, vous connaissez tous ce passage où Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Après cette étude, on comprend bien que Jésus est le chemin que lui a tracé, le chemin que lui, il a fait pour arriver et être à la droite de Dieu le Père, de pouvoir être assis sur le trône de Dieu. On va lire Matthieu 25, chapitre 30, Matthieu 25 et verset 34 à 41. Matthieu 25. Verset 34 à 41.
Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont : Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra : Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Oui, alors c'est
jusqu'à 41.
C'est extraordinaire ce passage aussi. Voilà, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Jésus s'identifie à Dieu, il s'identifie aussi au pauvre, à celui qui au pauvre, qui est vraiment, quand on rejette quelqu'un, c'est comme si on rejette Jésus-Christ. Donc, on est encouragé vraiment à ce que nous dit la parole de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, ça c'est le premier commandement. Deuxième commandement, c'est d'aimer notre prochain. Parce que c'est comme si, quand on aime notre prochain, c'est comme si on aime Jésus-Christ. Ça, c'est ça aussi, nous devons y penser. Pas vivre pour cela, mais de faire tout pour la gloire du Seigneur. Et en tant que chrétien, nous devons rechercher les choses de Dieu. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses nous seront données. En plus, et c'est vrai aussi qu'il est notre souverain sacrificateur pour l'éternité. Vous savez, l'histoire du tabernacle était la purification de ce que Jésus allait faire, la préfiguration. J'écris mal. Tout a été accompli. Le sang de Christ a suffi pour Dieu, Et il suffit pour nous, bien sûr. Alors, la loi de Moïse nous condamnait. Colossiens chapitre 2, verset 4 le dit. Jésus nous a ouvert le chemin de la foi et il peut parfaitement, aujourd'hui, encore sauver celui qui s'approche de lui. Ça aussi, c'est la patience de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Jésus est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous l'avons dit, tout pouvoir lui a été donné et rien ne lui est impossible. Alors, aujourd'hui, Jésus, il est dans les lieux célestes. La valeur de sa mort et de sa résurrection n'a pas perdu aujourd'hui de son pouvoir. C'est toujours le même. Dieu veut sauver. Et Dieu frappe à la porte du cœur de chacun de nous. Et aujourd'hui, si on n'a pas ouvert cette porte, eh bien nous sommes dehors. Mais Jésus, il frappe à la porte de notre cœur. Alors, j'ai envie de dire, si on ne l'a pas encore fait, eh bien nous pouvons lui dire tout simplement, eh bien oui Seigneur, rentre dans mon cœur. Et Jésus va faire le reste. Mais faisons-le en vraiment appuyé sur la parole de Dieu, sur celui qui nous dit, ce que Jésus nous dit dans les Écritures. Hein. Faisons-le de tout notre cœur. Parce que c'est aujourd'hui encore un jour de grâce, un jour où nous pouvons dire, eh bien Seigneur, oui, je ne sais pas tout peut-être, je ne connais pas tout, mais je sais que tu m'aimes, je sais que tu es là, tu veux me sauver, tu es mort pour mon péché, tu es ressuscité, ben Seigneur, je veux te louer, ben c'est un encouragement pour nous qui avons accepté, mais c'est un encouragement encore pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Et vous savez, c'est pas parce que nous l'avons fait que nous avons accepté le Seigneur il y a peut-être, pour certains c'est hier, pour d'autres c'est il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, mais c'est chaque jour, que nous devons vivre la résurrection de Jésus-Christ. Voilà deux mots, on a un peu dépassé les 4 minutes. Mais voilà, que le Seigneur vraiment nous conduise et vraiment à vivre en tant que ressuscité. On va peut-être terminer par la prière. Paul, tu veux terminer par la prière ?
Du moment que tu nous as permis de passer ensemble autour de ta parole, merci pour ces enseignements, Seigneur, qui est directement de ta parole. Notre Dieu, on veut se remettre devant toi pour cette semaine, encore donne-nous vraiment de vivre sous ton regard, comme des ressuscités, Seigneur. Donne-nous cette volonté de te plaire, Seigneur, et de chercher ta présence dans nos vies. Notre Dieu, que ce soit une réalité, vraiment. Mais on remet encore devant toi tous ceux dans nos familles qui ne te connaissent pas.
Amen.
On voudrait vraiment te les présenter, Seigneur, pour qu'ils soient touchés, que vraiment ils puissent se tourner vers toi. Se remets devant toi encore pour ce soir, Seigneur, donne-nous de pouvoir repartir et veuille nous garder sur les routes, Seigneur. Se remets devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.